David, le roi pécheur. On entre encore davantage, de plus en plus, à mesure des figures de cette histoire sainte que nous découvrons, on entre encore davantage dans l'histoire, dans la dimension du récit historique, puisque avec David, dont le récit couvre les livres de Samuel et qui sont repris dans les chroniques, on voit naître un élément essentiel de l'historicité, c'est l'État. À vrai dire, on peut même penser que la naissance de l'histoire est contemporaine de l'État, qui est le premier archiviste. Et on sait que les textes de la Bible que l'on a collectés ont commencé d'être collectés précisément à l'avènement de l'État sous le règne de David, lorsque le chef d'État a voulu collecter la mémoire et s'assurer de ce récit. Et puis l'État est également caractérisé par la détermination d'une carte et d'un territoire. Et donc on voit le peuple nomade devenir sédentaire, tracer les frontières d'un État au prix, évidemment, de guerres incessantes. Et on assiste, avec l'histoire de David, à ce changement de nature, en quelque sorte, du peuple élu, qui, de peuple nomade, devient la population d'un souverain, le peuple confié à un souverain. Et on voit un certain nombre d'épisodes qui nous mettent en présence de l'affrontement des populations nomades et des populations sédentaires. Par exemple, lorsque David veut prélever une taxe sur les troupeaux de Nabal et Abigaïl, et que on voit qu'il est tout à fait dans la logique de Hobbes, protego ergo obligo, je protège donc j'oblige, ce qui en Corse se dit je te protège, David se présentant comme protecteur de ces peuples pasteurs veut en profiter pour prélever une taxe. Or cette histoire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est peut-être la seule, je ne sais pas, en tout cas c'est une histoire écrite du point de vue des perdants. C'est l'histoire d'une longue catastrophe. Il s'agit pour le peuple de se rappeler d'où il vient et de se rappeler ses fautes. Et donc, ce n'est pas l'histoire d'un... Contrairement à ce que spontanément on pense devant un livre d'histoire, et même contrairement au traitement que l'on fait souvent subir à l'histoire sainte, ça n'est pas l'histoire glorieuse des héros, c'est bien plus une histoire blessée, une histoire qui comporte donc la dimension du repentir, au fond. La mémoire de ce peuple est inséparable de la conscience d'un repentir. Elle n'a pas pour rôle de développer une mythologie héroïque comme, par exemple, peut l'être l'Énéide pour les Romains qui ont voulu se trouver des ancêtres qui soient nobles et valeureux. Ici, donc, on a une histoire qui est entièrement vue du point de vue de la catastrophe. Et cette catastrophe a principalement pour instrument ce magnifique roi pêcheur qu'est David, figure exemplaire du souverain, mais exemplaire aussi dans les égarements de la souveraineté. Il faut dire que le peuple avait été prévenu par Samuel. En effet, pour ouvrir cette histoire de David, qui commence par celle de Saül, vous le savez, donc il y a trois rois, qui, c'est pas beaucoup d'ailleurs, qui ponctuent cette histoire qui commence en l'an 1000, Donc c'est Saül, David et Salomon. À chaque fois, l'histoire se ressemble étrangement, puisque Saül, on dit, ah ben voilà, hein, qui est grand, qui est costaud, qui est beau, qui est valeureux. Et puis Saül devient fou, complètement mélancolique et obsédé de rêves criminels. David, en voilà un bon, on va le chercher derrière son troupeau, il est beau, il est roux, il va tuer Goliath, et puis tout va finir dans une catastrophe que nous allons voir ce soir. Et Salomon, donc, qui a commencé par demander la sagesse et qui va consommer la ruine du royaume par la corruption et même la trahison de la foi de son peuple. Donc à chaque fois, les espérances de cette histoire sont déçues et le peuple aurait dû écouter Samuel. En effet, dans la Samuel, première partie, chapitre 8, on a l'épisode dans lequel le peuple demande un roi. Alors vous savez que le peuple, donc composé de 12 tribus, était en état errant, logé sous une tente, et ces 12 tribus étaient guidées par des gens qu'on appelait les juges, qui étaient des magistrats, mais investis, et des chefs de guerre, mais non pas investis d'une fonction pérenne. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges en Israël. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils furent attirés par le gain, acceptèrent des présents et firent fléchir le droit. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Eh bien, établis-nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les autres nations. » Parce que toutes les nations autour, elles ont un roi. Donc quoi a-t-on l'air si on n'a pas de roi ? Cela déplut à Samuel. Qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour qu'il nous juge. Et il invoqua Yahvé. Mais Yahvé dit à Samuel, satisfais à tout ce que te dit ce peuple. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Puisque, en l'absence de roi, nous sommes gouvernés directement sous la main de Dieu. Donc le peuple nomade est gouverné directement sous la main de Dieu. Et le roi va s'interposer, capter à son profit le rayonnement de l'absolu et par là même détourner le peuple de Dieu. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge ». Il invoqua Yahvé. Mais Yahvé dit à Samuel « Satisfais à tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux. Tout ce qu'ils m'ont fait depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont abandonné et ils ont servi des dieux étrangers. » Ils te le font aussi. Eh bien, satisfait à leur demande. Seulement, tu les avertiras solennellement et tu leur apprendras le droit du roi. Samuel répéta toutes les paroles de Yahvé au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie et à ses chevaux et ils courront devant son char. Il les emploiera comme chef de 1000 et comme chef de 50. Il leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliveraies les meilleures et les donnera à ses officiers. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme et les donnera à ses eunuques et à ses officiers. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos bœufs et de vos ânes, il les prendra et il les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous vous serez choisi. Mais Yahvé ne vous répondra pas ce jour-là. Le peuple refusa d'écouter. Samuel refusa d'écouter Samuel et dit « Non, nous aurons un roi, on veut un roi. Et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous jugera, il sortira à notre tête et combattra nos combats. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit à l'oreille de Yahvé, mais Yahvé lui dit « Satisfais leur demande et intronise-leur un roi. » Vous le savez, donc le premier roi intronisé sera Saül, donc, et la figure à laquelle nous arrêterons ce soir c'est celle de David. Donc c'est une histoire blessée que nous allons lire, une espèce d'épopée échevelée où se mélangent noblesse et trahison, cruauté, lubricité et tendresse, superstition et foi, dans un mélange tout humain, humain, trop humain. Alors, pour souligner le caractère d'épopée de cette histoire, je me suis amusé, on n'est pas sérieux quand on a mon âge, à prendre pour titre de chaque partie la figure d'un récit. Donc la première partie sera Tintin, la deuxième partie sera Robin des Bois, la troisième partie sera le Roi Soleil et la quatrième partie sera le Roi Lear. Tintin, le Robin des Bois, le Roi Soleil, le Roi Lear. Commençons donc rapidement par l'histoire de Tintin sans trop s'y arrêter, parce que je ne pourrais pas évidemment m'arrêter à tous les épisodes, donc qui consonne avec l'histoire de David et Goliath. Donc Samuel, on l'a vu, cède à la volonté du peuple d'avoir un roi. Vous le savez, il rencontre Saül par hasard. Yahvé lui dit, c'est lui. Donc Samuel oint Saül, qui devient donc roi par cette onction sacrée. Mais assez étrangement, si vous lisez le premier livre de Samuel, vous verrez que Samuel lui donne l'onction quasiment en cachette, ils sont tous les deux tout seuls. Donc personne ne sait au fond que Saül a l'onction. En revanche, après l'onction, Samuel dit « Tiens, on va tirer votre roi au sort ». Alors on tire le roi au sort, alors on tire d'abord au sort une tribu, puis dans la tribu on tire au sort des familles, puis dans la famille de Saül on tire au sort et on tombe sur Saül, il se trouve qu'il est grand, qu'il est costaud. Et donc c'est lui qui est nommé roi, non pas par onction, mais par tirage au sort. Ah, mais il est nommé roi une troisième fois, décidément la Bible bégaye. Car après avoir été nommé roi par onction, dans le grand secret de l'oreille de Yahvé, après avoir été nommé roi par tirage au sort, il est finalement nommé roi par acclamation du peuple au retour d'un exploit guerrier. Trois sources de la souveraineté. Dieu, le hasard, la vox populi. L'hétérogénéité de ces sources, la pluralité de ces sources, nous alerte déjà sur la fragilité de cette souveraineté, son manque de fondement. Qui a trop de fondement n'en a probablement pas. Et donc nous met devant la situation donc de désarroi que donne la royauté. On le sait, Saül donc devient mélancolique et délirant, il est obsédé par l'idée de tuer David, il fait tuer d'ailleurs au passage les prêtres de Yahvé, souverain qui a reçu l'onction sacrée n'en consulte pas moins les nécromanciennes, se livrant à des pratiques magiques qui sont évidemment proscrites dans la foi. Et donc il poursuit David de sa haine et il mourra en se jetant sur sa propre épée. Au terme d'une guerre qu'il était en train de perdre. On peut s'arrêter à la faute de Saül qui a jeté la malédiction sur son règne. Cette faute est assez étrange, car le peuple lutte contre les premiers occupants, les Indiens qui étaient là, donc les Amalécites, les Philistins. Et donc au cours de la guerre contre les Amalécites, Yahvé prescrit à Saül de jeter l'anathème sur les Amalécites et tous leurs biens, c'est-à-dire de les détruire et de ne surtout pas se les approprier. Et la faute de Saül sera de transformer en quelque sorte la guerre sainte en pillage et de s'approprier donc le meilleur des troupeaux. On peut regarder cet épisode qui est hautement significatif et qui recoupera quelques remarques que j'ai eu l'occasion de faire concernant le sacrifice. Pour ceux qui étaient là et ont la patience de revenir. Le matin, Samuel partit, il est toujours là, partit à la rencontre de Saül. On lui donna cette information. Saül est allé à Carmel pour s'y dresser un trophée, puis il est reparti plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel arriva auprès de Saül, donc après une victoire. Samuel arriva auprès de Saül et Saül lui dit « Béni sois-tu de Yahvé, j'ai exécuté l'ordre de Yahvé. » C'est-à-dire que j'ai vaincu les Amalécites. Mais Samuel demanda « Qu'est-ce que c'est que ces bêlements qui viennent à mes oreilles et ces meuglements que j'entends ?»« On les a amenés d'Amalek, » répondit Saül, « car le peuple a épargné le meilleur du petit et du gros bétail en vue de l'offrir en sacrifice à Yahvé. Et quant au reste, nous l'avons voué à l'anathème, c'est-à-dire détruit complètement. » Alors on imagine que l'excuse est bien trouvée. Mais Samuel dit à Saül, « Cesse donc, et laisse-moi t'annoncer ce que Yahvé m'a révélé. Si petit que tu sois à tes propres yeux, n'es-tu pas le chef des tribus d'Israël ? Yahvé t'a sacré roi sur Israël. Il t'a envoyé en expédition et il t'a dit, « Pars, vous, à l'anathème, les Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à Yahvé ? Pourquoi t'es-tu rué sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à Yahvé ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai obéi à Yahvé. J'ai fait l'expédition où il m'envoyait et j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a pris en petit et en gros bétail le meilleur de ce, qui frappait l'anathème, de ce que frappait l'anathème pour le sacrifier à Yahvé, ton Dieu. » Yahvé, ton Dieu. Il y a une nuance. Mais Samuel dit, Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices ? Propos qu'on a déjà vu la dernière fois. Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole de Yahvé ? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et donc, pour cette désobéissance qui pourtant est ornée d'une bonne excuse, le règne de Saül sera maudit à jamais. Alors devant l'état mélancolique et délirant de Saül, on cherche un nouveau roi qui serait élu par Yahvé. Alors, je le dis pendant qu'il est encore temps, de peur d'oublier lorsque ce sera la fin de mon exposé. Saül est nommé par l'onction, l'acclamation, le sort. Bon. David est nommé par Yahvé et reçoit l'onction dont on ne parlera plus après, assez étrangement. Comme si ce point de départ s'était effacé. Quant à Salomon, il n'est pas désigné par Yahvé, mais par David. Et là est aussi une des fautes dans la fondation du royaume. Une des fautes. Mais qui sont dans la simple logique du pouvoir. Hein. Alors vous connaissez tous le récit de la vocation de David, on peut le lire, car on a beau le connaître, on le relit avec plaisir. Donc Samuel va à Bethléem, chez Jessé, où il doit donc trouver le nouveau roi, tandis que Saül est encore en fonction, qui viendra régénérer la monarchie. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et demandèrent « Ta venue est-elle de bon augure ?»« Oui, répondit Samuel, je suis venu offrir un sacrifice à Yahvé, purifiez-vous et venez avec moi. » Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit « Sûrement, Yahvé a oint, à son oint, à son béni, devant lui. Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car celui-ci, je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues des hommes, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. Donc David sera choisi pour son cœur noble. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit passer Shama, puis Samuel, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, « Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. » Il demanda à Jessé, « En est-ce fini avec tes garçons ?» Celui-ci répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est à garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher, il était roux, avec un beau regard et une belle tournure, et il avait dit, « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Où l'on voit, comme dans l'épisode du combat contre Goliath, que je ne commenterai pas, que Dieu ne regarde pas l'apparence. Non seulement il ne regarde pas l'apparence, mais il semble se plaire aux plus petits. Ce qui est aussi dans la logique du récit des 12 tribus qui ne resteront plus à la fin que celles de Juda et de Benjamin. Et c'est toujours par le plus petit que Dieu régénère sa création, en quelque sorte, régénère son œuvre. Et alors que la folie propre aux hommes, c'est justement la recherche de la grandeur. Voilà donc David, oint par Samuel. David entre au service de Saül et rentré au service de Saül, il se montre un guerrier audacieux, habile, rusé, fort, capable de commander, faisant des coups magnifiques et il vole donc de succès en succès contre les Amalécites, les Philistins. Le deuxième livre de Samuel nous dit « Partout où il allait, Dieu lui donnait la victoire. » Et David, au service de Saül, devenu une sorte de supplétif, donc vole de victoire en victoire et écarte la menace des voisins. Ce qui fait de lui un chef admiré de ses hommes, et donc chef admiré de ses hommes, naturellement porté au pouvoir par la Vox Populi. Seulement, Saül prend ombrage de la montée de cette étoile, comme il est fréquent dans la logique du pouvoir. Les hommes de pouvoir n'aiment pas beaucoup que des étoiles montent à côté d'eux. Et donc, Saül devient de plus en plus jaloux de David et tente même de le tuer en projetant sa lance en sa direction, si bien que David s'enfuit, tout en continuant d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé cette partie Robin des Bois, c'est-à-dire que David devient expatrié, se cache dans les montagnes, se cache dans les forêts, mais caché dans les forêts et les montagnes, il reste au service du royaume, il continue le combat contre les Amalécites et les Philistins, il les continue avec le même courage, avec la même audace. Et donc, d'une certaine manière, le cœur de David reste loyal à l'égard de Saül. Il est d'ailleurs lié d'amitié avec Jonathan, le fils de Saül. C'est ce qu'illustre bien cet épisode. Il y a 2 épisodes qui montrent la générosité du cœur de David et sa mansuétude, puisque à deux reprises, la vie de Saül lui est mise à sa portée. Et à deux reprises, alors qu'il a aisément la possibilité de se débarrasser de ce tyran fou et sanguinaire, il lui laisse la vie sauve, précisément par respect pour l'onction qu'il a reçue et par loyauté à l'égard de son souverain, quand bien même se trouverait-il donc dans la situation d'un robin des bois pourchassé de toutes parts. Cet épisode, il est donc dans le premier livre de Samuel, enfin le premier de ces épisodes, au chapitre 24. Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David, à l'est des rocs des Bouquetins. Il arriva au parc à brebis qui sont près du chemin. Il y a là une grotte où Saül entra pour se couvrir les pieds, c'est-à-dire poser culotte. Et or, David et ses gens étaient assis au fond de la grotte. Donc voilà Saül, lamentablement accroupi et exposé, vulnérable ô combien, tandis que David est caché au fond de la grotte. Or, David et ses gens étaient assis au fond de la grotte, et les gens de David lui dirent : voici le jour où Yahvé te dit : c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme il te plaît. David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après quoi, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes : Yahvé me garde d'agir ainsi à l'égard de mon Seigneur, de porter la main sur lui, car il est loin de Yahvé. David coupa la parole à ses hommes et ne leur permit pas de se jeter sur Saül. Celui-ci quitta la grotte et alla son chemin. David se leva ensuite et sortit de la grotte et lui cria : Monseigneur le roi ! Saül regarda derrière lui et David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis David dit à Saül : pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent : voici que David cherche ton malheur ? En ce jour même, tes yeux ont vu comment Yahvé t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Mais j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné, et j'ai dit : je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de Yahvé. Ô mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai pu couper le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais clairement qu'il n'y a chez moi ni méchanceté ni crime. Je n'ai pas péché contre toi, alors que toi tu tends tes embûches à ma vie pour me l'enlever. Que Yahvé soit juge entre toi et moi, que Yahvé me venge de toi, mais ma main ne te touchera pas. Toujours poursuivi, car sa mansuétude n'entraîne pas vraiment un changement d'attitude de Saül, David va même se réfugier chez les ennemis. Et donc David va se réfugier plusieurs années chez les Philistins, se mettant à leur service, mais continuant néanmoins par ruse à défendre les intérêts du peuple hébreu et vivant de razzia, mais des razzia qui atteignent non pas les juifs, mais leurs ennemis. Et il dit aux Philistins que les butins qu'ils rapportent ont été pris sur le peuple juif. Donc on a rapidement vu, premièrement, Tintin, bon, on ne s'est pas trop arrêté. Deuxièmement, Robin des Bois. Et puis, troisièmement, on va s'arrêter davantage au Roi Soleil. Car à la mort de Saül, voilà David, roi de Juda, c'est-à-dire du royaume du Sud. Je vous rappelle, donc, les 12 tribus, les deux tribus du sud correspondent au royaume de Juda, correspondront au royaume de Juda après la séparation en 900 et quelques. Et donc le royaume du nord, Israël, est composé des 10 autres tribus. Et donc pendant 7 ans, David règne sur Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, et il n'opérera la réunification des 12 tribus que 7 ans plus tard, au terme de nouveaux combats sur lesquels nous reviendrons. cette investiture de David comme roi après la mort de Saül, David qui cependant a été oint depuis de nombreuses années, cette investiture ne manque pas d'ambiguïté, car s'il prend le deuil à l'occasion de Saül et s'il chante un chant de deuil en l'honneur du souverain perdu, il n'en reçoit pas moins le diadème et le bracelet de Saül des mains d'un imposteur. Et donc la couronne que David va mettre sur sa tête est une couronne volée et couverte de sang. Cette histoire est vraiment shakespearienne et c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que je terminerai par le roi Lear. Puisque, donc je vous l'ai dit, Saül se jette sur son épée et puis il y a quelqu'un qui passe par là, un soldat qui passe par là et se présente comme ayant tué Saül. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel. Fin du premier livre, Saül perd un combat contre les Philistins. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, les fils de Saül. Le poids du combat se porta sur Saül. Les tireurs d'arc le surprirent et il fut blessé gravement par les tireurs. Alors Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et se jouent de moi. » Mais son écuyer ne voulut pas, car il était rempli d'effroi. Alors Saül prit son épée et se jeta sur elle. Ainsi moururent ensemble ce jour-là Saül et ses trois fils. Après la mort de Saül, début du deuxième livre, après la mort de Saül, David, revenant de battre les Amalécites, demeura deux jours à Siclad. Le troisième jour, un homme arriva du camp auprès de Saül. Il avait les vêtements déchirés, la tête couverte de poussière. En arrivant près de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » Il répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David demanda, « Que s'est-il passé ? Informe-moi. » L'autre dit, « C'est que le peuple s'est enfui de la bataille, et parmi le peuple, beaucoup sont tombés et sont morts, même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David demanda au porteur de nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune porteur de nouvelles répondit, « Je me trouvais par hasard sur le mont Guelboé, je vis Saül s'appuyant sur sa lance et serré de près par les chars et les cavaliers. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je répondis, « Me voici. » Et il me demanda, « Qui es-tu ? » Je lui dis, « Je suis un Amalécite. » Il me dit alors, « Approche-toi de moi et tue-moi. Car je suis saisi de vertige, bien que ma vie soit tout entière à moi. » Je m'approchai donc, je lui donnai la mort, car je savais qu'il ne survivrait pas. Puis j'ai pris le diadème qu'il avait sur la tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les ai apportés. » Menteur, traître, qui transmet les emblèmes de la monarchie à David. Alors David saisit ses vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. Il en profite au passage pour tuer le jeune serviteur Amalécite quand même, pour venger la mémoire de Saül. Vous remarquez, et je ne referai pas ce commentaire, qu'il n'est plus jamais question de l'onction de David. À la place de l'onction, il y a la couronne couverte de sang. Abner, qui était un général de Saül, poursuit la guerre entre Israël et Juda. Et donc, au terme de cette guerre, Abner est assassiné par traîtrise entre deux portes, alors même que David lui promettait la paix, qu'il conclut la paix avec Abner, et au moment où David conclut la paix avec Abner, le général de David, qu'est Joab, exécuteur des basses œuvres, l'assassine entre deux portes. Et là, ça va devenir de pire en pire. Car ainsi, David devient roi des deux parties du royaume. partie du nord, partie du sud, Israël et Juda. Et il s'avise de se prendre une capitale. Un roi sans capitale, ça ne se fait pas. Et donc il lui faut une capitale à David. Et il va choisir comme capitale Jérusalem, alors que Yahvé lui donnait Hébron comme capitale. Donc quand David crée Jérusalem, il désobéit à Yahvé, il trahit Yahvé, pour finalement faire l'acte de propriété, vous voyez, sur le peuple. Et si bien d'ailleurs que Jérusalem ne sera pas appelée cité de Yahvé, mais cité de David. Le nom perpétué deviendra cité de David. D'autant plus que il aurait dû rester à Hébron, non seulement parce que Yahvé le lui disait, mais si vous vous rappelez les épisodes précédents, Hébron c'est le tombeau des patriarches. Et on avait vu dans l'histoire d'Abraham que c'est même la seule propriété que ce peuple nomade a, puisqu'on avait insisté sur le fait que Abraham, à qui était promis une terre abondante, a eu finalement pour toute propriété sa tombe. Il est vrai que pour chacun d'entre nous, ça restera la dernière. Et que si Yahvé désigne à David comme capitale Hébron, c'est précisément dans la suite des patriarches et de l'histoire du peuple. Et donc tout se passe comme si David trahissait cette demande dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 5. Qui demanderait à être lu de manière très détaillée. Je vous prie de m'excuser pour la rapidité des propos. Après cela, David consulta Yahvé en ces termes. « Monterai-je dans l'une des villes de Juda ?» Yahvé lui répondit « Monte ». David demanda « Où monterai-je » Et la réponse fut « À Hébron ». David y monta, ainsi que ses deux femmes. Quant aux hommes qui étaient avec lui, David les fit monter chacun avec sa famille et ils s'établirent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là, ils joignirent David comme roi. Ah, mais c'est une onction par les généraux. On apprit à David que les habitants de Yabesh de Galaad avaient donné la sépulture à Saül. Non, c'est pas ce que je voulais vous lire. Donc David s'installe à Jérusalem, qui est un peu plus au nord et qui effectivement est un peu plus à l'intersection des deux royaumes, qui est sur un piton, et il fait entourer, donc on va rentrer dans la sédentarité, on va rentrer dans les emblèmes du pouvoir, découper la carte et le territoire, et donc David entoure Jérusalem d'une muraille, et édifie Jérusalem comme une forteresse. Il a oublié une chose. Donc il est rentré dans Jérusalem, il a construit une forteresse, il se construit un palais. Ah, il a oublié quelque chose, l'arche. Quelle étourderie quand même. Alors donc, il fait chercher l'arche. Parce que celui qui a le pouvoir, il est bon que il soit protégé par les signes sacrés de la tradition. Donc on a une procession qui fait monter l'arche jusqu'à Jérusalem. Vous connaissez cette procession. S'étant mis en route, David et toute l'armée qui l'accompagnait partirent afin de faire monter l'arche de Dieu qui porte le nom de Yahvé Sabaoth, siégeant sur les chérubins. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio marchait devant elle. David et toute la maison d'Israël dansaient devant Yahvé de toute leur force, en chantant au son des cithares, des harpes et des tambours, des sistres et des cymbales. Comme on arrivait à l'ère de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, car les bœufs la faisaient verser. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Uzza. Sur place, Dieu le frappa pour cette faute et il mourut. Là, à côté de l'arche de Dieu, David fut fâché de ce que Yahvé eut foncé sur Uzza. Ce jour-là, David eut peur de Yahvé et dit « Comment l'arche de Yahvé entrerait-elle chez moi ?» Ainsi, David ne voulut pas conserver l'arche chez lui, dans la cité de David. Vous voyez que le rédacteur insiste, chez lui, dans la cité de David. Et il la conduisit chez Obed-Edom de Gath, un étranger. L'arche de Yahvé demeura 3 mois chez Obed-Edom de Gath, et Yahvé le bénit et toute sa famille. On rapporta au roi David que Yahvé avait béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu. Alors David partit et fit monter l'arche de Dieu à la maison de la maison d'Obed-Edom à la cité de David, en grande liesse. Et quand les porteurs de l'arche de Yahvé eurent fait 6 pas, il sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Yahvé. Il avait ceint un pagne de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche de Yahvé en poussant des exclamations et en sonnant du cor. Or, comme l'arche de Yahvé entrait dans la cité de David, la fille de Saül, Michal, la première femme de David, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant Yahvé, et dans son cœur, elle le méprisa. Et suit, une fois que l'arche est installée, suit l'épisode sans doute, enfin aux yeux d'un commentateur comme Jacques Cazot, le plus important de l'Ancien Testament, et je ne peux que partager modestement son avis. Une fois que l'arche est installée, donc on la met sous une tente, et David songe à construire un temple, car il ne convient pas que lui ait un palais et que l'arche soit sous une tente. Et donc, il forme le projet de construire un temple. Alors, ce temple, je n'ai pas tout dit, il faut que je revienne sur un épisode. Lorsque David est nommé roi au début, et lorsqu'il rejoint Jérusalem, le roi, dont je ne retrouve pas le nom, croyez-moi, un roi, Hiram, le roi Hiram, donc le roi de Tyr, envoie une ambassade à David pour le consacrer sa royauté, avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre qui construisirent une maison pour David. Alors David sut que Yahvé l'avait confirmé comme roi sur Israël et qu'il exaltait sa royauté à cause d'Israël, son peuple. Notez bien ce détail des pierres et du bois de cèdre donné par un souverain étranger pour consacrer le statut de roi parmi les rois de David, car ce bois de cèdre, c'est celui qu'on va retrouver pour construire le temple. Venons-en à l'épisode de la construction du temple. En effet, le prophète Nathan, instruit par David du projet de construire un temple pour sortir l'arche du tabernacle, c'est-à-dire de la tente, est envoyé par Yahvé pour s'adresser à David. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Quand le roi habita sa maison et que Yahvé lui débarrassait de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente. » Nathan répondit au roi, « Va et fais tout ce qui te tient à cœur. » Mais cette même nuit, la parole de Yahvé fut adressée à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle Yahvé. » Et écoutez attentivement ce texte, qui est un texte clé des Écritures, qui d'ailleurs est évoqué dans l'évangile, pour ceux qui seraient allés à la messe dimanche dernier, dans l'évangile de dimanche dernier. « Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite ? Je n'ai jamais habité de maison. » depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans un camp volant, sous une tente. Pendant tout le temps où j'ai voyagé avec tous les Israélites, ai-je dit une fois à un seul des juges d'Israël que j'avais institué comme pasteur de mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Voilà maintenant ce que tu lui diras, mon serviteur David. Ainsi parle Yahvé, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière tes brebis pour être le chef de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple, je l'y planterai. Il demeurera en cette place. Il ne sera plus ballotté et les méchants ne continueront pas à l'opprimer comme auparavant depuis le temps où j'instituais les juges sur mon peuple Israël. Je te débarrasserai de tous tes ennemis. Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes enfants. On sait ce qu'il en est devenu. Et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et s'il commet le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et par les coups que donnent les humains. Mais ma faveur ne lui sera pas retirée comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. La réponse de Yahvé est claire. Ce n'est pas toi qui me feras une maison, c'est moi qui t'en fais une. Et maison est pris ici au sens non pas des murs, mais au sens de où l'on parle d'une maison royale, d'une maison noble, d'une descendance, d'une lignée. Donc la maison qu'évoque Yahvé, c'est une maison faite d'hommes. Alors que la maison qu'évoque David, c'est une maison faite de cèdres, de bois de cèdre et de pierre. J'évoquais au début l'opposition du nomadisme et de la sédentarité. Elle est ici à son maximum, puisque Yahvé dit « Moi, j'aime vivre sous la tente et je n'ai pas du tout besoin qu'on me capture dans un temple. » Et donc les paroles du Christ, je le dis au passage, les paroles du Christ sur le temple ne se comprennent qu'à la lumière de ce texte. Donc les deux épisodes évoqués dans l'évangile selon saint Jean, des marchands chassés du temple, donc j'ai expliqué que c'était un épisode qui évoquait le refus du sacrifice et des sacrifices rendus dans le temple. Et de la même manière, donc, la parole du Christ sur ce temple, je le détruisez-le et je le rebâtirai en trois jours, donc fait écho à cet épisode, d'autant plus que ce temple donc, qui sera construit par Salomon, effectivement en bois de cèdre et en pierre, au prix d'une réduction en esclavage. Donc Salomon et David vont devenir des pharaons. Et donc ce temple qui sera détruit lors de la démolition de Jérusalem en 590, sera reconstruit et le temple devant lequel est le Christ est un temple qui a été reconstruit par Hérode qui est une double profanation. Si construire un temple est une profanation de la part de David, alors de la part d'Hérode c'est une profanation au carré. Et c'est pour ça que les gens étonnés disent « Mais n'admires-tu pas ce temple ?» qui est un symbole de richesse, de puissance. Au deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, en effet, on peut lire, donc au cours d'un des nombreux épisodes guerriers où David s'illustre, car il reste chef de guerre à la tête de ses armées, bien que de plus en plus il envoie des lieutenants, David rassembla toute l'armée et alla à Rabba, il donna l'assaut à la ville et s'en empara. Il enleva de la tête de Milcom la couronne, tiens, une de plus, qui pesait un talent d'or, elle enchâssait une pierre précieuse qui devint l'ornement de la tête de David. Donc ce n'est même plus la couronne de Saül qu'il a, c'est la couronne d'un incirconcis, d'un étranger, d'un infidèle, mais qui est ornée d'une pierre précieuse. Il emporta le butin de la ville en énorme quantité. Quant à sa population, il la fit sortir, la mit à manier la scie, les piques, les haches de fer et l'employa au travail des briques. C'est exactement ce que faisaient les Égyptiens. Il agissait de même pour toutes les villes des Ammonites. David et toute l'armée revinrent ainsi à Jérusalem et voilà donc David devenu un deuxième pharaon. Constructeur de temples, réduisant les peuples à l'esclavage, vivant de butin, thésaurisant des richesses. Non seulement, vous le savez, il thésaurise les richesses, mais il accumule aussi les femmes. On évoque le nombre de ses femmes, le nombre de ses descendantes. Et c'est ici aussi que survient l'épisode, un des plus beaux de la Bible, l'épisode de Bethsabée. Alors il conviendrait qu'on le lise, mais il me reste encore pas mal de choses à dire. Mais enfin, vous connaissez l'histoire de Bethsabée qui illustre à merveille la fidélité de son mari. Et donc c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11 et 12. Donc je ne vous raconte pas la manière dont David voit Bethsabée, comment David se débarrasse d'Uri en l'envoyant à l'armée, en donnant un ordre pour que Uri soit passé à un poste dangereux, car, vous savez, ayant appris que Bethsabée, qu'il avait fait monter dans sa chambre, était enceinte, David fait revenir Uri pour que celui-ci s'accouple avec elle et qu'il puisse croire que l'enfant est de lui. Mais Uri, qui est en service commandé, ne veut pas s'abandonner aux délices du conjugaux et donc reste en fidèle serviteur à la porte de son roi sans coucher avec sa femme, ce qui marie David, qui ne peut pas lui attribuer la paternité de ce bâtard. David décide de tuer Uri, non seulement de tuer Uri, mais de le faire tuer, puisque vous savez qu'il le met aux avant-postes. Donc il donne à Joab pour ordre de mettre Uri aux avant-postes et de l'exposer à l'endroit le plus dangereux, en recommandant bien qu'il ne revienne pas. Et ce que Joab comprend fort bien, et voilà donc David qui non seulement prend la femme d'Uri, mais fait tuer Uri. Vous le savez, cet enfant mourra, cet enfant que Bethsabée porte mourra, ce qui est le signe de la malédiction peut-être, et que aussitôt après, David s'unira à nouveau à Bethsabée, et c'est de là que naîtra Salomon. Ce qui fait que la descendance même de Salomon est marquée d'une faute originelle, là aussi toute semblable à celle de tous nos ancêtres. Et je lis, ne pouvant pas tout lire, je lis quand même le chapitre 12 qui est très beau, dans lequel Nathan est envoyé par Yahvé pour montrer à David sa faute. Faute d'avoir pris Bethsabée et faute d'avoir fait tuer Uri. Yahvé envoya le prophète Nathan vers David. Il entra chez lui et lui dit, « Il y avait deux hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en grande abondance. Le pauvre n'avait qu'une brebis, une seule toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui et avec ses enfants, mangeant son pain, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. C'était comme sa fille. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui épargna de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il vola la brebis de l'homme pauvre et la prêta pour son visiteur. David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Aussi vrai que Yahvé est vivant, l'homme qui a fait cela est passible de mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. » Nathan dit alors à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Je t'ai oint comme roi d'Israël, je t'ai sauvé de la main de Saül, je t'ai livré la maison de ton maître, j'ai pris dans tes bras les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ce n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. Pourquoi as-tu méprisé Yahvé et fait ce qui déplaît ? Ce qui lui déplaît. Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite, sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne se détournera plus de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahvé. Alors Nathan dit à David, de son côté, Yahvé, pardonne ta faute, tu ne mourras pas, seulement parce que tu as outragé Yahvé en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. Le roi Soleil est donc emporté par l'appétit de la puissance, s'approprier le sacré, s'approprier le plaisir, s'approprier les hommes, toutes les formes, toutes les tentations du pouvoir. Même si David reste une figure courageuse, pure, David se repent. Après le récit de Nathan, il en est bouleversé. Le pouvoir l'entraîne dans les mêmes fatalités. Je ne sais pas si c'est une fatalité du pouvoir. En tout cas, on peut penser à la phrase d'Alain disant « Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. » Cette sentence pourrait fort bien s'appliquer à la destinée du beau et courageux David. Dernier épisode, le roi Lear. Aussi, les dernières années de David sont-elles assombries, et en particulier sont assombries par la question de la succession. Puisque si la magistrature échappe à Yahvé, c'est les hommes qui vont décider qu'elle succédera comme il leur plaira. Et que donc on va donner le pouvoir aux enfants, le népotisme est la tentation la plus naturelle du pouvoir. D'ailleurs, les enfants n'attendent pas, car lorsque l'ancêtre vieillit, et que les enfants grandissent, les plus ambitieux et les meilleurs d'entre eux sont tentés de s'emparer du pouvoir. C'est le cas, par exemple, pour Absalom. Et donc Absalom, qui est le plus grand et le plus beau, qui a une chevelure magnifique, chacun le sait, des enfants de David se révolte contre son père au grand désarroi de David, dont le cœur frémit à cette trahison et le remplit de peine. Et donc son fils Absalom va le trahir. Il vaut la peine de lire la trahison d'Absalom, car elle devrait vous rappeler quelque chose. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14. Alors, Absalom a déjà fait une première trahison. David, dans sa mansuétude, car David a le cœur généreux, lui pardonne, mais Absalom n'en garde pas moins des projets scabreux sur le royaume. Et au chapitre 15, on peut lire « Il arriva après cela qu'Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes couraient devant lui. » Ça vous rappelle ? Premier livre de Samuel, chapitre 8. « Vous aurez un roi ? » Il fera courir ses hommes vos enfants devant ses chevaux, etc. Il arriva après cela qu'Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes couraient devant lui. Levé de bonne heure, Absalom se tenait au bord du chemin qui mène à la porte, et chaque fois qu'un homme ayant un procès devait venir au tribunal du roi, Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville es-tu ?» Il répondait « Ton serviteur est d'une des tribus d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais tu n'auras personne qui t'écoute de la part du roi. » Absalom continuait, « Ah, qui m'établira juge dans ce pays ? Tous ceux qui ont un procès et un jugement viendraient à moi, je leur rendrai justice. » Et lorsque quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il tendait la main, l'attirait à lui et l'embrassait. Absalom agissait de la sorte envers tous les Israélites qui en appelaient au roi, et Absalom séduisait le cœur des gens d'Israël. Voilà donc le fils qui trahit. Et Ah oui, alors qu'auparavant, je lis quand même pour le plaisir la description d'Absalom, elle est connue, elle est dans le chapitre précédent. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau qu'Absalom, à qui on put faire tant d'éloges. De la plante des pieds au sommet de la tête, il était sans défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, il se rasait chaque année parce que c'était trop lourd, il pesait sa chevelure, soit 200 sicles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille qui se nommait Tamar. C'était une belle femme. À l'occasion de la révolte d'Absalom, David, le vieux roi, s'exile encore. Donc c'est pour ça qu'on peut penser au roi Lear, chassé de son propre royaume par ses enfants. Et devenu fou, le roi Lear est devenu fou, David est devenu dans un état assez proche de celui de Saül. Et il s'éloigne de Jérusalem en prenant soin toutefois d'y laisser l'arche. On a donc un épisode symétrique à celui de la peur de garder l'arche chez soi. Au moment où il est chassé de chez lui, il reconnaît quand même que c'est l'arche qui est à sa place davantage que lui qui se voit donc obligé de s'exiler. Et Absalom est tué par Joab, encore lui, et par traîtrise, donc toujours le même exécuteur des basses œuvres qui avait tué Abner. Et David, donc, retrouvant son royaume, continue d'être un souverain plein de mansuétude, en particulier à propos de ceux qui l'avaient injurié dans sa déchéance, Shimaï et Meribal. Revenu à Jérusalem, il commet la dernière faute, la faute caractéristique du souverain, la faute la pire, le recensement. Le recensement, c'est vraiment l'acte du propriétaire. Non seulement il a déterminé une forteresse, des murailles, etc. Non seulement il a réduit le peuple à la servitude, mais voilà qu'il veut le compter, comme on compte un troupeau, comme on compte un trésor, comme on compte un bien. Et vous le savez, l'histoire est magnifique. Le peuple meurt de la peste. Tout se passe comme s'il fondait à mesure qu'on le compte. C'est-à-dire, qui veut se l'approprier, le perdra. Comme l'eau coule entre les mains. C'est important aussi de se rappeler que Jésus est né à l'occasion d'un recensement, l'acte du souverain. Et de se rappeler aussi les différents épisodes de recensement que nous avions vus dans l'Exode et donc dans l'histoire de Moïse. Deuxième livre de Samuel au chapitre 24. Le roi dit à Joab et au chef de l'armée qui était avec lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël et faites le recensement du peuple afin que je sache le chiffre de la population. » Joab répondit au roi, « Que Yahvé ton Dieu accroisse le peuple de 100 fois autant pendant que Monseigneur le roi peut le voir dans ses yeux, mais pourquoi le roi aurait-il ce désir ?» Même Joab est raisonnable. Cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent la présence du roi pour recenser le peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, et puis donc là, on a l'épisode du dénombrement. Verset 10, « Après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple. Et David dit à Yahvé, c'est un grand péché que j'ai commis. » C'est un bon gars. J'ai commis un grand péché. C'est un grand péché que j'ai commis. « Maintenant, Yahvé, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. » Quand David se leva le lendemain matin, cette parole de Yahvé avait été adressée au prophète Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle Yahvé, je te propose 3 choses, choisis-en une. » Gad se rendit chez David et lui notifia ceci. « Faut-il que t'advienne 3 années de famine dans ton pays, ou que tu fuis pendant 3 mois devant ton ennemi qui te poursuivra, ou qu'il y ait pendant 3 jours la peste dans ton pays ? Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit : « Je suis dans une grande anxiété. Ah, tombons entre les mains de Yahvé, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste. Plutôt que de tomber entre les mains des ennemis, au moment où il vient de recenser le peuple, il préfère encore que ce soit le peuple qui soit décimé, plutôt que ce soit lui qui soit exposé donc à la vindicte des ennemis. Dans le livre des Chroniques, le même épisode est rapporté, mais plus explicite encore, car dans le livre des Chroniques, c'est Satan qui suggère à David d'opérer le recensement. Exactement comme il suggère à Adam et Ève de s'approprier le bien qui a été reçu. Donc David connaît la même faute, de s'approprier le bien qui a été reçu. Le roi, donc, dont les jours s'assombrissent, qui devient dément, se choisit un héritier. Donc dans la personne de Salomon, donc c'est lui qui va décider de la succession et non plus Yahvé, comme on l'a suggéré. Et alors qu'il a témoigné de son vivant de mansuétude à l'égard de ses ennemis, par exemple Shimaï et Méribaal, sur son lit de mort, il confie à son fils la tâche de sa vengeance. Ce qui est encore aussi une des malédictions du pouvoir, d'ailleurs une malédiction des hommes. Quand les morts gouvernent les vivants, ce n'est pas très bon. Et la vengeance, c'est les morts qui gouvernent les vivants. Et donc, alors que David avait promis à Shimaï et Méribaal de ne pas les poursuivre pour leur offense, de leur laisser la vie sauve, et qu'il s'est montré très généreux à l'admiration de tous, en leur laissant la vie sauve, sur son lit de mort, il dit à Salomon, « Maintenant que une fois que je serai mort, occupe-toi d'eux. » Voilà le testament de David, et c'est testament que Salomon exécutera dans tous les sens du mot. Nous avons donc à grands pas, hélas, pu contempler cette figure à la fois épique et tragique de David, qui nous met au cœur donc de tout le drame du pouvoir et de la foi. Un homme de foi que l'ivresse de la puissance fait vaciller, et qui est tenté du grand péché, celui que l'on a vu avec Adam, celui qu'on a vu avec tous les épisodes que nous avons pu rencontrer, qui est le péché de la propriété, de vouloir mettre la main sur les dons de Dieu pour faire comme si il relevait de nos mérites.